Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, comme tous les dimanches de 18h10 à 19h30 en direct. Plus de 15 ans après la loi Aillagon, la philanthropie se porte bien en France. Elle finance de manière significative la culture, mais aussi le sport, l'éducation, le social ou la cause environnementale. La philanthropie pourtant fait l'objet de critiques en raison du manque à gagner fiscal de l'État ou tout simplement du manque de transparence. Ce soir, nous faisons le point sur l'état de la philanthropie en France avec en creux un regard sur les évolutions de la philanthropie et du mécénat aux États-Unis également. François Debiès, c'est le président de l'ADMICAL, l'Association pour le développement du mécénat industriel et commercial, et il est l'un de nos invités ce soir. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Sean Buffington est le vice-président de la fondation LUS, une importante fondation qui finance notamment les arts à New York. Nous l'avons interviewé pour Soft Power. Il est également notre invité ce soir. Trois journalistes interviendront également pour décrypter les nouveaux visages, les nouvelles formes de philanthropie. Sarah Hugounenc, journaliste au quotidien de l'art. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir
Frédéric. Et Zoé Fez de Tout France Culture. Bonsoir Zoé. Zoé,
bonsoir Frédéric.
Trois chroniqueurs qui vont tenter de parler dans le poste ce soir.
On espère qu'on va y arriver.
Actualité également ce soir dans cette émission, actualité culturelle avec la soirée des Césars et une récompense controversée à Roman Polanski pour son film J'accuse, on en parle dans un instant. Actualité numérique également avec des évolutions chez Twitter. Actualité média enfin avec les graves difficultés des cahiers du cinéma et du magazine littéraire. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce dimanche. Émission réalisée ce soir par Véronique Villa avec en régie Sylvain Latu. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata, car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr un podcast comme chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. Vous avez le programme. C'est parti. France Culture, 18h14, l'actualité des industries culturelles et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs Sarah Hugounenc du quotidien de l'art, Emmanuel Paquette de l'Express et Zoé Fez de France Culture.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à
Roman Polanski pour J'accuse.
Il confirme son statut de record de la catégorie avec 5 Césars. Il a emporté à chacune de ses nominations Tess, le pianiste, Ghost.
L'Académie remettra ce César à qui de droit ce soir à l'issue de la cérémonie.
Puisqu'ils ne sont pas présents.
Peut-être.
On commence bien sûr par cette cérémonie des Césars, soirée mouvementée vendredi soir sur Canal+, en clair. D'abord les faits. Plus de 4300 professionnels du cinéma auraient choisi de récompenser les films cette année, dont près de 80% auraient pris part au vote, selon le JDD ce matin, parce que le pourcentage des votants est connu, mais on ne sait pas exactement comment ils ont voté. Ça reste secret. Les deux Césars, les plus prestigieux en tout cas, meilleur film et meilleurs réalisateurs, ça c'est sûr, sont allés au film Les Misérables et au réalisateur Roman Polanski. Ce dernier est par ailleurs accusé de viol commis aux États-Unis il y a 43 ans et plus récemment par plusieurs femmes qui l'accusent également de viol ou d'agression sexuelle, ces derniers étant prescrits ou les victimes ayant renoncé à porter plainte. Alors aux manifestations de groupes féministes ces dernières semaines et encore vendredi soir, s'est ajouté le départ spectaculaire en pleine cérémonie d'Adèle Haenel, l'actrice elle-même victime d'agression sexuelle par un réalisateur de cinéma lorsqu'elle était adolescente. Le procès n'a pas encore eu lieu. Fallait-il récompenser Polanski plutôt d'ailleurs que son film? Certains pensent que le César du meilleur film, plus ambigu car un prix collectif aurait été plus pertinent que celui de meilleur réalisateur, reçu comme une pure provocation. Mais il semble que le règlement des Césars, qui interdit qu'un film puisse obtenir ces deux prix à la fois, a pu être à l'origine de cette récompense inattendue et donc attribuée mécaniquement dès lors que Les Misérables obtenait déjà le César du meilleur film au film de Polanski. On peut penser en revanche qu'une majorité des 4300 votants ont voulu sans ambiguïté récompenser Polanski pour faire passer un message clair. Nous jugeons l'art, nous jugeons un film, nous ne sommes pas des juges de la morale d'un homme, car ça, c'est à la justice de le faire, pas au monde de l'art. À l'appui de cette thèse, certains artistes ont pris la défense de Polanski, directement ou indirectement, à commencer par l'acteur Jean Dujardin ou Fanny Ardant. « J'aime Roman depuis toujours », a-t-elle déclaré, « alors je ne porte pas de jugement, impossible de questionner la morale, et quand un homme est seul contre tous, je prends toujours son parti ». À l'appui de cette thèse également, la qualité du film, j'accuse, effectivement superbe sur un sujet politiquement sensible, l'affaire Dreyfus, film qui fut un beau succès au box-office en France. 1,5 million de Français l'ont déjà vu selon le site CBO Box Office. Bernard-Henri Lévy, Denis Oliven, Brice Couturier et de nombreux intellectuels ou journalistes ont également pris la défense de l'attribution de ce César à Roman Polanski. Certains font également remarquer que Lajli, le réalisateur des Misérables, primé comme meilleur film, a été lui-même condamné à de la prison ferme, confirmé en appel, pour violence avec séquestration. Il y aurait donc deux poids, deux mesures pour eux à critiquer Polanski et à porter Lajli au pinacle. Thèse, par exemple, d'un député LREM du Cher dans un point de vue publié ce matin dans le Journal du Dimanche. Du côté des voix critiques, maintenant fort nombreuses sur les réseaux sociaux, beaucoup s'étonnent de cette récompense jugée comme une véritable provocation. Si le film avait été primé ou ses acteurs, il a reçu par ailleurs le César du meilleur costume et de la meilleure adaptation, c'eût été bien moins problématique que le César du meilleur réalisateur. Des féministes, par exemple comme Caroline Fourest, dont le premier film Sœur d'armes n'a même pas été choisi par les Oscars et fut massivement boudé par le public, attaquent Polanski. Des journalistes, de Marie-Claire, ou elle, attaquent également cette attribution à Polanski. C'était aussi le point de vue du ministre de la Culture, Franck Riester, avant même la soirée des Césars, qui ne voulait pas que le César du meilleur film revienne à Polanski et qui visiblement parle un peu dans le désert, un camouflet majeur pour le ministre, dont la parole hardie a peut-être le résultat inverse à ce qu'il escomptait. Un ministre remisé en simple commentateur qu'on n'écoute même pas. Voilà un autre élément d'un certain fiasco de cette cérémonie. D'autres questionnent bien sûr les votants parmi les professionnels du cinéma où les femmes sont très largement sous-représentées, comme d'ailleurs les jeunes. Des projets de réforme en ce sens existent depuis notamment la démission du conseil d'administration de l'association qui attribue les Césars. Comme en écho sur cette représentation éventuellement douteuse, Adèle Haenel a résumé le débat ainsi. Il voulait séparer l'homme de l'artiste, il sépare aujourd'hui les artistes du monde. En fin de compte, ce débat montre une profonde division du cinéma français et pour une part de l'opinion, même si les professionnels du cinéma semblent avoir voulu faire passer un message fort et clair par leur vote très majoritaire, véritable 49-3 du cinéma, un choix clair en faveur de l'art et de l'artiste, quel qu'il soit, sous-entendu qu'il s'appelle Céline, Herbert von Karajan, Peter Handke ou même par certains aspects Gabriel Mazneff, plutôt qu'une politisation de l'art. D'où ce César décerné en l'absence de Roman Polanski et de son équipe est donc attribué, pourrait-on dire, par contumace, pour un beau film qu'il faut sans doute malgré tout aller voir, peut-être pour juger sur pièce, plutôt, car ce n'est peut-être pas le métier du critique, plutôt que de juger un homme. Zoé Sfez.
Ah, alors, je pense que ce qui est intéressant beaucoup dans ce débat, c'est cette cérémonie et c'est ce film, c'est un mauvais film. La cérémonie des Césars de vendredi était un événement télévisuel, un événement d'image et c'était vraiment un film. On parle ici de gens de cinéma et je pense réellement que ça a été un moment assez intéressant dans la mesure où en fait la question dont on parle dépasse largement celle de Polanski et surtout celle de l'homme et de l'œuvre, contrairement à ce que certains pourraient dire que vous citez dans votre papier, Frédéric, Et ça, on le voit bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas venu, son équipe n'est pas venue, et pourtant les manifestantes, elles étaient présentes. La question, effectivement, c'est presque plus Polanski ni son film, mais ce qu'il incarne, ou ce qu'il a choisi d'incarner en ne parlant pas, un homme qui a fui la justice, qui n'a jamais reconnu ni évoqué sa culpabilité dans l'affaire pour laquelle on l'a poursuivi aux États-Unis, mais aussi dans les 6 autres affaires dont on a pris connaissance, puisque les femmes qui l'accusent de faits, eh bien, aujourd'hui, ne peuvent pas porter plainte, prescription oblige. Effectivement, on est dans une situation qui ne bougera jamais, puisqu'il n'y aura plus jamais de justice dans ces affaires-là. La question, c'est effectivement pas tellement l'homme, mais l'institution. Comment l'institution traite et regarde ce qu'il, pas forcément ce qu'il est, mais en tout cas ce qu'il incarne. Toute cette cérémonie, en fait, a fait, tout au long des longues heures de cette cérémonie, comme si on comptait sur l'institution pour prendre acte du changement majeur qui s'est joué ces derniers mois et qui dépasse largement la question du cinéaste, celle de la prise de parole des femmes sur la question des violences sexuelles, avec Adèle Haenel, on en a parlé, mais aussi sur celle de la question de leur marginalisation dans le milieu. Parce que depuis qu'on parle de cette cérémonie, on évoque évidemment le départ d'Adèle Haenel extrêmement dramatique dans le sens premier du terme, mais l'autre question qu'on a presque oubliée depuis plusieurs semaines sur les Césars, c'est la gestion autocratique d'Alain Terzo de cette institution, le manque énorme de femmes, de jeunes. Alors quand on parle de jeunes, il faut quand même se rappeler que 50% de ces votants ont plus de 70 ans. Donc là, on n'est plus sur une question de jeunesse,
c'est clairement des
hommes vieux. Voilà. Et c'était aussi la volonté, par exemple, d'évincer la réalisatrice Claire Denis ou l'autrice comme Virginie Despentes du collège des parrains et des marraines de cette cérémonie. Donc on est sur des problématiques beaucoup plus larges que la seule question de Polanski. Et à tous ces égards-là, il fallait regarder comment cette cérémonie allait se dérouler. Et j'ai fait un exercice très intéressant. J'ai re-regardé cette cérémonie à l'aune de sa fin, en essayant de regarder comment elle tendait vers ce point. Ce qui frappe, c'est en fait comment tout le monde essaye de se convaincre tout au long de cette cérémonie qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose qui va permettre de contenter tout le monde. À commencer par le discours de la présidente, Sandrine Kiberlain, qui ouvre cette cérémonie en disant « c'est la dernière d'une époque, la première d'une nouvelle ère », qui parle du temps où les femmes étaient en lutte comme d'un temps, je cite, « révolu ». Donc tout de suite, on a un espèce de ton qui nous dit en fait « pas la peine de regarder, tout va bien se passer. En réalité, on le voit bien, ça ne va pas se passer. Le réalisateur de l'émission, donc la personne qui choisit quel plan on prend, qui traque tout le visage, tout au long de la cérémonie, le visage d'Adèle Haenel, qui est très souriant au début. On pense évidemment qu'elle va prendre la parole, soit qu'elle gagnera, soit qu'elle aura au moins la possibilité de faire un discours. Au fur et à mesure, ses plans sont de plus en plus tendus, on la voit souffler, on la voit se préparer potentiellement à gagner le César de la meilleure actrice et donc probablement de parler. Finalement, ça n'arrivera jamais. Il y a la réaction glaciale de la salle au discours de l'actrice noire Aïssa Maïga, qui milite depuis des années pour plus d'inclusion, comme si finalement le discours sur la diversité, en plus de tout ce qu'on a déjà à traiter ce jour-là, c'était finalement un peu trop. Et puis, il y a cette espèce de joie collective, ce ouf de soulagement, quand on récompense l'actrice, puis la réalisatrice de l'excellent film Papicha, par ailleurs, qui met en scène un féminisme qui finalement arrange tout le monde, puisque ses ennemis, c'est plutôt les islamistes. On parle d'un film qui se passe en Algérie. Et puis, il y a le temps qui passe, et il y a les deux actrices primées, donc Fanny Ardant, vous l'avez dit, Fanny Ardant qui dira plus tard, après la cérémonie, qu'elle suivrait jusqu'à l'échafaud Roman Polanski. Et puis, la très jeune Aïs Dumoustier, qui explique que le cinéma est une fête, qu'elle tourne depuis qu'elle est petite, et qui passe, mais alors complètement à côté du caractère complètement historique du moment où elle remporte ce César, qui ne mentionne ni Adèle Haenel précisément, ni la libération de la parole à aucun moment. Et puis, à part Swann Harlow, qui sera récompensé pour son rôle excellent là aussi dans Grâce à Dieu, sur la pédophilie dans l'église, il y a une espèce d'incapacité énorme des acteurs, des actrices, des producteurs récompensés à oser une parole finalement politique, vraiment politique, sur cette question et même sur d'autres. Et puis enfin, il y a ce moment cruel que vous venez de nous faire réécouter de la récompense de la meilleure réalisation qui ira à Polanski. Alors, tout le monde a gardé en tête, évidemment, le départ d'Adèle Haenel, cette fameuse image avec sa main qui crie « c'est une honte, mais personne n'a vraiment commenté la cruauté énorme de la question des remettantes. Parce que qui remet ce César ? Eh bien, c'est Emmanuelle Berco et Claire Denis, deux réalisatrices, c'est les seules qu'on verra de la soirée. Claire Denis, c'est la même Claire Denis qui a été évincée par Alain Terzian et qui vient à ce moment-là et qui essaye, dans un moment très apaisé, probablement le moment le plus calme de cette cérémonie, avec une parole qui est relativement naturelle, eh bien, de faire un hommage à ce que c'est que la réalisation. Emmanuelle Berco qui la suit, qui dit finalement, entre réalisateur et réalisatrice, on tisse une conversation. Il ne s'agit même pas de concurrence, dit-elle. Et voilà, et on a entendu ce petit moment incroyable où elles sont obligées d'annoncer ce prix. Et on voit d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, vous nous avez mis, Frédéric Martel, le moment tel qu'il a vraiment existé. Or, il y a toujours un léger différé, il faut le savoir, dans les Césars, entre le moment où la cérémonie a lieu et le montage. Le temps, en fait, où on annonce la réalisation à Roman Polanski et le moment où finalement Sandrine Kiberlain revient sur scène pour annoncer le meilleur film, il a été beaucoup plus long que ce qu'on a vu, puisque d'une part, effectivement, on voit Claire Denis en plan large qui reste sur scène, qui essaye vaguement de reprendre le micro, et finalement, elle est plus ou moins empêchée. Et puis, il y a eu ce moment fou où Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, qui animait cette cérémonie depuis le début, a refusé tout simplement de revenir sur scène. C'est donc Sandrine Kiberlain qui revient complètement perdue, et qui annonce là encore extraordinairement soulagée la victoire des Misérables, parce qu'il fallait pas qu'il y en ait deux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a confisqué à l'équipe des Misérables son discours politique, puisqu'à ce moment-là, globalement, tout le monde s'en fiche de ce que la Gilly a à dire. Donc en plus, même la portée la plus politique de cette cérémonie est évincée par l'aspect politique que la cérémonie n'est pas pris en charge. Alors voilà, contrairement à vous, Frédéric, je pense, en tout cas ce que vous aurez lu dans cette fameuse décision quasiment unanime des votants de l'Académie des Césars.
Au moins 50%, sans doute.
Voilà, vous lisez un message qui consiste à dire on préfère l'œuvre à l'homme. Moi, je pense principalement que ces gens, qu'il faut le rappeler, sont à 70% des hommes et à 50% des personnes de plus de 50 ans ont envoyé un autre message qui est un camouflet à des femmes qui prennent la parole, des femmes qui prennent la parole sur la question sexuelle, mais aussi et surtout sur la question de leur place dans la profession. Il faut aussi se rappeler qu'Adèle Haenel et Céline Sciamma, ce sont deux femmes lesbiennes. Et pour moi, je pense réellement que cette récompense à Roman Polanski, là encore sur la réalisation et pas sur le film, c'est un message d'une autre nature.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors Zoé disait que c'était pas forcément la peine de regarder, c'était en tout cas ce que avaient essayé de faire les présentateurs au début pour essayer de déminer le scandale à venir.
Alors si, il faut le regarder, c'est intéressant.
En réalité, il a été regardé pour le coup, puisque depuis 5 ans, puisque les audiences étaient mauvaises pour les Césars, donc au bout de 5 ans, il y a une nouvelle hausse de l'audience, 12,4% de part d'audience, part de marché, avec 2 millions de personnes, alors c'est bien moins que Koh-Lanta sur TF1, et pourtant, il y a eu aussi autant d'actions, donc je pense que tout le monde attendait cette action, et tout le monde l'a eu. Et tout ça est un peu en...
Vers minuit et quart,
exactement. Et ça va plutôt à contresens par rapport à l'ensemble des récompenses données aujourd'hui dans les grandes cérémonies, qui riment bien souvent avec ennui, puisqu'on a vu les Césars, les Oscars, ont atteint leur plus bas historique cette année, avec à peu près 23 millions de personnes qui ont regardé, donc moins de 20% de part d'audience. C'était 29,6 millions de personnes un an plus tôt. Les Emmy Awards, c'est à peu près la même chose, les Golden Globes également. Donc en fait, toutes les cérémonies sont en train de perdre un peu de leur lustre. Alors à cela, plusieurs raisons. En tout cas, plusieurs raisons avancées. La première, c'est des cérémonies beaucoup trop longues, surtout des remerciements à n'en plus finir. Alors même si aujourd'hui, les gens font des efforts, puisque pour essayer de faire plus court possible. Et surtout, on ne donne pas la parole aux jeunes et on ne représente pas suffisamment les jeunes. Alors pas suffisamment les femmes, pas suffisamment les jeunes, pas suffisamment aujourd'hui les minorités aussi de couleur, puisque comme on le rappelait tout à l'heure, ça a été aussi noté lors des Césars. Et donc, on arrive aujourd'hui avec des cérémonies qui battent tous un peu de l'aile et on se demande bien comment elles vont pouvoir se réinventer. Alors, il y a quand même des tentatives. Aux États-Unis, ils se demandent s'il ne va pas falloir diffuser des bandes annonces de films à venir, rien que pour tenter d'attirer un peu les spectateurs, plutôt de lui parler du passé, au moins essayer de lui ouvrir les yeux sur l'avenir. Et puis surtout, des films beaucoup plus populaires, donc des films de science-fiction, des films d'action, qu'on ne voit pas ni aux Césars et très peu aux Oscars, et qu'on pourrait voir dans les mois ou années futures pour essayer de relancer l'intérêt du grand public.
Sarah.
Oui, moi je trouve que cette pseudo-immunité artistique dont on parle est complètement hypocrite, parce qu'au final, on n'a à aucun moment parlé du film en tant que tel, qui a été complètement évaporé par la personne de son réalisateur, et on ne parle que d'un pour ou d'un contre. Mais dans la suite des
dans
Césars,
la soirée, ouais.
Où finalement on a très peu parlé de la qualité du film, et comme vous le disiez très bien Zoé, ça a été pareil pour les autres films, qui pourtant ont une grande connotation politique, sur la quasi-totalité de la sélection d'ailleurs.
Oui, mais que surtout, ce soit Les Misérables, ou Grâce à Dieu.
Ou Grâce à Dieu, ou pour Roubaix et autres. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est ce que ça dit, je trouve ça très symptomatique de la société aujourd'hui, et de la fracture de la société, où aujourd'hui tout ce qui est organe d'autorité et de pouvoir, que ça soit la presse, que ça soit les critiques, que ça soit tous ces intermédiaires, sont en crise, avec systématiquement une suspicion d'abus, une suspicion de puissance, qui ne serait pas juste. On le retrouvera, je pense, on en parlera juste après avec le mécénat, avec la vindicte populaire qui a eu lieu aussi contre Pinault et Arnaud au moment de Notre-Dame. Voilà, on a quelque chose comme ça qui, je trouve, se retrouve ici dans la cérémonie des Césars, où, comme on l'a dit très bien jusque-là, il va falloir repenser à redonner de la légitimité à tout ce corps intermédiaire.
Alors, autre sujet moins complexe, mais qui sera peut-être assez polémique également sous peu, Emmanuel Paquette, l'annonce et le lancement peu à peu, d'ici quelques mois, et finalement de manière plus définitive et pour tous à partir de septembre, de Salto. Alors, c'est quoi Salto et qu'est-ce que ça annonce ?
Alors Salto, c'est la réunion des trois chaînes de télévision, des grandes chaînes de télévision, TF1, M6 et France Télévisions, pour essayer d'offrir une plateforme commune de services de vidéo à la demande.
Donc, une sorte de Netflix français.
Alors ils veulent surtout pas être appelés Netflix à la française.
On peut le comprendre. Oui.
Parce qu'en gros, ils estiment que eux aujourd'hui, Netflix ne pousse en avant que des contenus, ou essentiellement des contenus américains, que eux vont pousser essentiellement des contenus français et européens, notamment des contenus qui ont déjà été diffusés sur les chaînes hertziennes, mais pas seulement, puisqu'ils vont faire des acquisitions, notamment sur certains domaines dans lesquels les grandes chaînes ne sont pas présentes, donc les domaines de science-fiction, les domaines de l'horreur, seront présentes sur Salto, grâce à des acquisitions de séries dans les pays étrangers notamment, ou du préfinancement de séries françaises qui aujourd'hui ne sont pas financées par TF1, M6 ou France Télévisions. Alors effectivement, le lancement sera en juin, un premier lancement en juin, avec des aménagements à faire un peu au niveau du service. Donc déjà, les responsables de Salto demandent la plus grande indulgence par rapport au service pour un lancement officiel au mois de septembre. De toute façon, toutes les plateformes au lancement ont connu quand même quelques difficultés, y compris Disney+ aux États-Unis.
Et même Netflix, en réalité, à l'origine, quand ils avaient quitté les CD, les DVD rouges, envoyé par la poste.
Exactement, ils ont eu aussi des problèmes techniques au lancement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en septembre, il y aura à peu près 20 000 heures de programmes disponibles sur Salto, avec en réalité deux services. Un premier service de vidéo à la demande classique du type Netflix, Amazon et compagnie. Et puis un autre service qui sera logé sous la même adresse, qui sera en fait le live des grandes chaînes de télévision, TF1, M6, France Télévisions, et le replay, enfin donc la catch-up, le rattrapage, la télévision de rattrapage de toutes les séries et tous les films disponibles sur ces grandes chaînes.
Zoé Svez.
Écoutez, alors là, on est aussi sur une problématique avec Free quand même, il faut le dire. La vraie question, c'est en fait où on va avec ce projet-là, puisqu'il y a l'alliance de ces trois chaînes, de ces trois groupes, M6, TF1 et France Télévisions. Free, qui a peur que, en réalité, ça vienne abonder à leur litige qui existe déjà, donc Free qui porte plainte devant l'autorité de la concurrence. Pardon ?
Conseil d'État.
Conseil d'État, pardon. Maintenant, Conseil d'État, après avoir écrit à l'autorité de la concurrence. Banalement, on a envie de se dire qu'on va s'amuser parce que il y a tellement de questions non résolues dans cette affaire. Entre la question de la concurrence, la question de la diffusion, on est en OTT, mais est-ce que les groupes TF1 et M6 vont essayer de se privilégier à d'autres endroits ? Quid des accords de production et de distribution ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un producteur et que vous signez une fiction pour France 2, France 3, rien ne vous oblige à leur donner les droits ensuite d'exploitation. C'est pour ça qu'on peut trouver 10% sur Netflix, Capitaine Marlowe sur Netflix, trois semaines après leur diffusion. À quel moment est-ce que ces groupes seront en mesure d'obliger tous les gens qui travaillent pour eux à exercer sur cette plateforme ? Donc cette plateforme, il y a vraiment des choses qui peuvent se passer d'ici son lancement en juin. Juin, c'est demain. Il y a encore plein de questions en suspens. On ne sait pas s'il vaudra mieux pour eux décaler pour que les choses soient un peu plus calé, ou si il va falloir se lancer comme ça avec toutes les faiblesses inhérentes à ce modèle. Voilà, on risque de suivre un feuilleton encore pendant assez longtemps.
Récemment, Gilles Pélisson, le PDG du groupe audiovisuel TF1, avait salué l'arrivée de Salto. Il expliquait, je cite, « L'arrivée imminente de Salto, la plateforme créée avec France Télévisions et M6, et donc TF1, où vous aurez le meilleur des contenus français, ouvre de formidables opportunités. » En même temps, il parlait essentiellement dans cette interview de MyTF1, c'est-à-dire au fond de la plateforme de TF1. Emmanuel Paquette, comment vous voyez le fait que chacun de ces groupes, y compris France Télévisions ou M6 et bien sûr TF1, ont leur propre plateforme et en même temps ils vont mettre en commun avec différentes fenêtres, sans doute différents types de contenus, quelque chose de français face, c'est possible, ça peut marcher ça ?
C'est un peu le nœud du problème, sachant que en fait les alternatives qui existent dans d'autres pays, notamment en Angleterre, en Allemagne, existent déjà et ce sont plutôt des regroupements de grandes chaînes aussi qui pour l'instant tente de rivaliser avec Amazon et Netflix. Au Royaume-Uni, pour l'instant, il y a eu un premier projet qui s'appelait Kangaroo, qui avait été bloqué par les autorités de concurrence. Et maintenant, un nouveau projet qui a été cette fois autorisé. En Allemagne, c'est la même chose. Le projet a été également autorisé par les autorités de concurrence, puisque le paysage a beaucoup été modifié avec l'arrivée de ces nouveaux entrants venus des États-Unis. Donc l'idée, c'est que c'est pas tant que effectivement ils se cannibalisent d'une certaine façon entre leur plateforme à elles et puis cette plateforme commune. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, seuls, ils ne peuvent pas réussir face à des géants américains avec des montants d'investissement colossaux. Et puis,
et notamment Disney qui arrive et qui fait son grand out cette semaine, enfin le week-end prochain.
Semaine prochaine à Londres, effectivement, ils vont présenter le service qui sera disponible dans les différents pays européens. Alors avec des catalogues qui vont être différents d'un pays à l'autre en fonction des chronologies des médias des différents pays et des obligations.
Et des accords aussi. Exactement. Avec les producteurs.
Des producteurs. Et est-ce qu'ils ont récupéré les droits sur certains types de contenus auprès de certaines chaînes qui sont aujourd'hui des diffuseurs? Donc effectivement, il va y avoir beaucoup de questions se posent là-dessus. Et Salto aujourd'hui ne sait toujours pas si le prix du service sera plutôt aligné sur celui de Disney, c'est-à-dire un seul tarif autour de 7€ pour tout le monde, ou plutôt une stratégie à la Netflix, c'est-à-dire avec trois types de prix en fonction de trois types d'offres. Il devrait trancher ça dans les jours qui viennent.
Pour terminer cette actualité, trois brèves actualités un peu rapides. On commence, Emmanuel Paquette, par Twitter, avec notamment les difficultés politiques, le cas échéant, entre le fonds Elliott, qui s'intéresse à Twitter, et une agence, comme par hasard, peut-être, média, qui s'appelle Bloomberg, et qui commente tout ce qui se passe.
Oui, effectivement, c'est une dépêche Bloomberg qui explique que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, est un peu sur la sellette par le fonds activiste Elliott, comme vous le disiez. Alors, Elliott, c'est un fonds qu'on connaît bien en France. Le fonds s'est attaqué à Vivendi, notamment. Il est en train de s'attaquer à Pernod Ricard aussi depuis plusieurs mois. C'est un fonds activiste qui demande à ce que une société soit mieux gérée pour gagner plus d'argent. Et elle peut pour ça débarquer des administrateurs, débarquer des PDG et influencer la stratégie. Alors la raison d'Elliott officiellement pour prendre position dans Twitter, c'est que Jack Dorsey n'est pas aujourd'hui capable de diriger la société puisqu'il est également dirigeant d'une autre société cotée qui s'appelle Square, donc c'est un système de paiement sur téléphone mobile, et que Jack Dorsey a toujours dit qu'il voulait prendre grosso modo 6 mois de l'année pour partir en Afrique, pour faire du mécénat, donc un sujet dont on reparlera un peu plus tard, pour développer aussi les crypto-monnaies en Afrique, et donc le fonds Elliott considère que ce n'est pas un PDG à temps plein.
C'est un fumiste.
Exactement, et qu'il faut le remplacer. Alors là où ça pose un peu question, c'est que Paul Singer, qui est le dirigeant du fonds Elliott, est un pro-républicain.
Proche de Donald Trump.
Alors il a critiqué Donald Trump, puis après il s'est ravisé, il s'est mis derrière effectivement Donald Trump. Donc la question est de savoir, vu les relations entre Twitter et l'administration Trump, et notamment Donald Trump en personne qui considère que la plateforme est plutôt pro-démocrate, la question est de savoir aussi... Si...
Même s'il en abuse et il en use tous les jours,
il en
et
use
surtout
tous les jours,
toutes
exactement.
Les nuits.
Et la question est de savoir si ce dispositif du fonds Elliott, cette entrée en force du fonds Elliott dans Twitter, ne revêt pas aussi un caractère politique.
Autre actualité, Zoé Sez, qui concerne les cahiers du cinéma et le magazine littéraire, tous les deux différemment, mais tous les deux en difficulté.
Mais oui, c'est très intéressant aussi de voir comment les deux, disons, crises que traversent, voire potentielle disparition de ces deux magazines, qui racontent finalement le rapport assez symbolique que la France entretient avec d'une part la littérature et puis d'autre part le cinéma, racontent finalement du temps présent. Les cahiers du cinéma, vous le savez sans doute, il y a un très bon papier sur le site de France Culture que je vous invite à lire, n'a plus de rédaction depuis le milieu de la semaine, puisque dans un communiqué, les 15 rédacteurs ont annoncé qu'ils voulaient faire jouer leur clause de cession parce qu'ils sont en désaccord avec la nouvelle ligne éditoriale des nouveaux actionnaires qui ont repris les cahiers du cinéma. Alors, qui sont ces nouveaux actionnaires? Eh bien, c'est une espèce de conglomérat de 20 hommes d'affaires, dont le fondateur de Free, Xavier Niel, dont on connaît l'appétence pour les journaux, le patron d'Altice, France, Alain Veil, là encore, rien n'est approuvé, mais aussi, et c'est ça probablement qui est le plus problématique, des producteurs de cinéma comme Marc Dupontavis, Toufi Kayadi ou Christophe Barral ou encore Pascal Cocheteux. Bon, là c'est aussi intéressant de remarquer qu'il n'y a que des hommes, mais il y a surtout évidemment des acteurs prépondérants du marché sur lequel les cahiers du cinéma écrivent. Le nouvel actionnariat est composé de 8 producteurs qui nous posent un problème de conflit d'intérêts immédiat dans une revue critique écrivent les journalistes du Cahier du cinéma. Quels que soient les articles publiés sur les films de ces producteurs, ils seraient forcément suspects de complaisance. Les Cahiers, qui rappellent quand même qu'ils sont les héritiers des fondateurs de la Nouvelle Vague, qui ont aussi assez peur d'être invités par leurs nouveaux actionnaires à aimer mieux le cinéma français sous toutes ses formes et à embrasser moins de causes politiques.
Les Cahiers du cinéma d'André Bazin, voilà où on en est, voilà, mais aussi de Truffaut, de Godard. Et c'est un peu la même question qui se pose au fond au magazine littéraire.
Oui, alors sous d'autres problématiques, puisque le magazine de littéraire, il a été racheté il y a 5 ans par Claude Perdriel, lui aussi qui est propriétaire de différents médias dont il se déleste au fur et à mesure.
Challenge notamment.
Challenge, Claude Perdriel qui projette de céder le magazine littéraire, c'est une info qu'on a obtenue ces derniers jours et qui est encore relativement confidentielle, qui projette de les céder à Jean-Marc Ogier et Stéphane Chabanas. Qui sont-ils ? Eh bien ce sont les propriétaires de Lire, l'autre grand magazine sur la littérature. Et alors, la vraie question, c'est que va-t-il se passer ? La rédaction du magazine littéraire a écrit à son propriétaire actuel, Claude Perdriel, en s'inquiétant d'une rencontre avec ces deux possibles repreneurs qui ont annoncé vouloir fusionner les deux marques. C'est le terme de marque.
Oui, Jean-Jacques Ogier, qui est par ailleurs un bilan dans les médias souvent un peu contestable.
Largement contestable. Et c'est ce qui est écrit dans cette lettre. Puisque l'idée, en fait, ce serait d'avoir 10 numéros par an de ce nouveau magazine qui s'appellerait Lire / le magazine littéraire, avec toute une série d'hors-série. Effectivement, les journalistes du magazine littéraire s'inquiètent, de la réputation évidemment des deux repreneurs, et notamment de Jean-Jacques Ogier, qui, quand il est passé par le magazine Tatu, a licencié quasiment toute la rédaction, qui gère Lire de manière assez étrange, puisque je découvre à l'occasion de cette lettre ouverte que la rédaction de Lire se réduit à 3 journalistes, dont un seul en CDI, ne sont pas propres, donc à inspirer confiance, c'est ce qu'écrit la rédaction. Et puis au-delà de cette question-là, le journal, la rédaction du journal s'inquiète de voir uniquement un seul titre, une forme de monopole sur l'actualité littéraire, ce qui, là encore on le sait, n'est jamais bon pour traiter d'un champ aussi important en plus que celui de la littérature.
Et puis pour terminer, Luc Besson, dont la société passe sous pavillon américain, on le savait, mais c'est maintenant confirmé.
Effectivement, donc la société, le studio sort de la procédure de sauvegarde qui était mise en place depuis maintenant 9 mois. Donc le fonds d'investissement Vine qui avait 180 millions de créances à peu près au sein d'EuropaCorp, les 180 millions de créances ont été transformées en titres EuropaCorp et donc le fonds se retrouve aujourd'hui premier propriétaire avec 60% de la société. Monsieur Besson donc lui est dilué, il passe de 31% à 10% et les Chinois Fundamental qui avaient largement investi dans le studio français se passent de 27% à 9,5%. Donc on voit aujourd'hui que ce n'est plus un studio indépendant et ce n'est plus un studio français, puisque M. Besson devient directeur artistique et plus simplement PDG. Il touchera quand même 600 000 dollars par an au titre de directeur artistique.
Il doit rester 5 ans d'ailleurs.
Voilà, et 1 million de dollars par an exactement pour ses frais d'installation aux États-Unis. Et surtout, le fonds est prêt à remettre au pot pour financer à peu près 3 films par an, dont 2 en anglais et 1 en français. Donc l'avenir d'EuropaCorp va tenir en fait sur ses prochains films et leur succès éventuel ou pas.
La nouvelle philanthropie, on est dans un instant avec le vice-président de la fondation Luce à New York et François Debiès qui préside l'Amical en France. Et nos journalistes Sarah Ogonenk du quotidien de l'Art, Emmanuel Paquet de l'Express et Zoé Sfès de France Culture. C'est le sujet de Soft Power ce soir. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur l'Eurovision et le chanteur français qui nous représentera, Tom Leb, le fils d'ailleurs de l'humoriste Michel Leb, et qui chante en anglais. En fait, pas totalement. On va l'écouter. Il chante en français, mais son refrain, lui, est en anglais. Ce qui a suffi à déclencher la critique du ministre de la Culture, Franck Riester, qui pense que, je cite, « Sur un concours comme celui-là, on doit s'assurer que le français soit la langue qui est chantée. Il voudrait même, dit le ministre, obliger France Télévisions à choisir des chanteurs qui chantent français. » Alors, on peut répondre au ministre que Tom Leb, qui est totalement français, chante en français, sauf, il est vrai, le refrain, pour tenter, dit-il, de séduire le plus grand public, surtout lui rappeler qu'on n'a plus gagné l'Eurovision depuis Marie-Myriam en 1977 avec l'oiseau et l'enfant et presque tous les vainqueurs, quels qu'ils soient, chantent en général en anglais. Enfin, à critiquer Tom Leb, le ministre de la Culture, j'insiste, de la Culture, aurait pu lui reprocher, non pas son refrain en anglais, mais simplement, je le dis clairement, la nullité absolue de sa chanson en anglais comme en français. C'est de la soupe, voilà. L'Eurovision aura lieu le 16 mai 2020 aux Pays-Bas. On écoute.
La nuit comme un écho, comme un reflet à tes mots. Dans mon cœur, je lis un éternel récit de toi, de toi, de toi, de toi. You, you are the best in me. Au fond de moi j'ai compris. You are, you are, you are. Et tout ce qu'on s'est jamais dit revient me hanter jour et nuit. You are, you are, you are. You are the best in me. J'irai au bout des sens, faire voyager mon innocence pour qu'il dorme.
Voilà, on s'excuse vraiment, on est désolé, mais on le coupe sous la pression des chroniqueurs qui n'en veulent pas plus. Voilà, 18h45 sur France Culture.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Soft Power, ce soir nous parlons philanthropie dans cette émission, philanthropie mécénat. On va d'ailleurs expliquer un petit peu tout ça, comment ça se passe plus de 15 ans après la loi Ayagon. Nous sommes avec François Debiès, il est président de l'Admical, une association qu'on connaît bien pour s'occuper du développement du mécénat industriel et commercial depuis longtemps. Bonsoir monsieur. Qui a créé l'Admical d'ailleurs ?
Eh bien, l'Admical a été créé par un grand homme de culture qui s'appelait Jacques Rigaud, haut fonctionnaire, père du musée d'Orsay, président de RTL pendant une vingtaine d'années.
Directeur de cabinet de Jacques Duhamel, je crois.
Absolument.
Ministre de la Culture il y a fort longtemps, mais qu'on avait reçu dans cette émission qui est depuis malheureusement décédé. Avec nous également Sarah Hugonenc, journaliste au quotidien de l'art. Bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Paquet de l'Express, de Westfest, de France Culture. On peut peut-être commencer, Sarah, par quelques chiffres, les chiffres de la philanthropie en France. On parlera des États-Unis après.
Oui. Aujourd'hui, selon l'administration fiscale, les dons représentent 3,3 milliards d'euros, dont 2,1 qui seraient directement venus du don des particuliers. Les fondations, qui sont pourtant un outil séculaire en France, et on est très en retard par rapport à nos voisins, et européens et encore plus américains, c'est tout de même 10 milliards d'euros qui sont injectés tous les ans dans l'économie de l'intérêt général. Mais ces chiffres aujourd'hui cachent aussi un grand essor, particulièrement depuis la loi Ayagon, puisque, par exemple, en 2005, l'administration fiscale recensait 6500 entreprises qui bénéficiaient de la déduction fiscale au titre de la loi Ayagon. En 2017, elles étaient 69 000. Donc, on décuple le nombre d'entreprises. Voilà, juste ce chiffre pour vous montrer à quel point le mécénat, sous toutes ses formes, qu'il soit celui d'entreprise ou des particuliers, bondit. On retrouve le même type de chiffres sur les particuliers avec le crowdfunding, particulièrement depuis les plateformes internet qui ont permis de décupler aussi l'appel à la générosité publique qui pourtant est une pratique très ancienne. La première a été faite avec la Statue de la Liberté à New York qui a été financée de cette manière donc à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui on a un vrai regain d'intérêt pour ces modes de souscription populaire. Entre 2017 et 2018 par exemple, les sommes collectées sont de plus de 48% juste sur internet. Donc voilà, ça montre à quel point on a un essor de la philanthropie sur tous les segments de la société en France.
François Debiès, vous êtes un peu, on pourrait presque dire un lobbyiste, c'est un, au sens positif du terme, en faveur,
hein,
vous défendez un militant,
de la
philanthropie. D'ailleurs, comment on parle de philanthropie, on parle de mécénat, on parle d'entreprise, de particulier, de fondation? Clarifiez-nous un petit peu ces...
Alors, je vais le faire tout de suite. Juste un tout petit correctif par rapport à aux chiffres que vient de donner Sarah. Je pense que la réalité des chiffres de ce qui est donné par les entreprises comme par les particuliers est nettement supérieure aux chiffres annoncés par Bercy.
Expliquez-nous pourquoi.
Pour une raison très simple. Admical fait tous les deux ans un baromètre du mécénat d'entreprise. Et depuis que ce baromètre existe, c'est-à-dire depuis maintenant plus de 15 ans, il y a un chiffre qui ne se dément pas d'un baromètre à l'autre, c'est que la moitié des entreprises qui font du mécénat ne défiscalisent pas. Donc, ne les fiscalise pas, soit parce que elles connaissent pas bien les mécanismes, soit parce qu'elles sont trop petites et qu'elles considèrent que c'est pas très intéressant, soit parce qu'elles n'ont pas envie de défiscaliser. Il y en a qui l'affichent clairement. Et donc, l'estimation d'Admical par rapport aux 2,1 milliards que vient de citer Sarah, c'est plutôt entre 3 milliards et 3,5 milliards pour les seules entreprises, auxquelles s'ajoute une somme un peu supérieure pour les particuliers. Le crowdfunding effectivement monte énormément, mais il représente encore une part minoritaire de ce que donnent les particuliers. Et donc, donc c'est plus de 7 milliards qui sont donnés par des ressources privées pour l'intérêt général.
Puisque vous êtes venu avec nous ce soir, un mot sur l'Admical, donc l'association, on l'a rappelé, qui est ancienne. Vous présidiez vous-même auparavant une autre fondation fort connue, un BNP Paribas. Vous vous occupez aujourd'hui d'Admical. Comment ça fonctionne l'Admical et quelles sont vos actions?
Alors l'Admical donc a été créée il y a maintenant plus de 40 ans avec une double vocation qui était le développement du mécénat et l'accompagnement des mécènes. Développement du mécénat, ça voulait dire deux choses principalement. Ça voulait dire travailler avec la puissance publique à l'instauration d'un cadre juridique et fiscal. La loi Aillagon qui est arrivée 23 ans plus tard, hein, puisque Admical a été créée en 79.
Quinzaine d'années maintenant.
Et puis faire un travail d'évangélisation, prenons ce mot, auprès des entreprises pour leur montrer que c'est super important pour elles de s'engager dans l'intérêt général. Donc ça, c'est la première partie de la feuille de route. La deuxième, c'est qu'une fois qu'une entreprise a décidé d'aller vers le mécénat, eh bien c'est l'aider, l'accompagner, au moins dans son démarrage, pour qu'elle aille effectivement vers un mécénat efficace. Bon, le mécénat pour les entreprises, c'est souvent quelque chose de nouveau. C'est une approche qui est différente de ces problématiques. C'est plus éloigné, bien évidemment, de la tradition de recherche de profitabilité des entreprises. Mais, en revanche, la recherche d'efficacité et d'impact, elle peut se retrouver.
Quels sont les différents domaines aujourd'hui du mécénat en France? La culture, le social, l'environnement, il y a des oubliés aussi. Quelles sont les données dont vous disposez à l'Admical?
Alors, un tout petit mot de sémantique pour répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure.
Mécénat,
c'est les entreprises, philanthropie, c'est les particuliers. Ce sont deux mauvais mots. Hein, les mots ne sont pas adaptés. Philanthropie, ça ne veut pas dire ça en français. Mécénat, vous le savez, c'est directement lié au nom du premier mécène, Caius Mécénas, sous l'empereur Auguste à Rome. Mécène d'Ovide en particulier.
Bon, donc, et puis sous François Ier, etc.
Absolument,
sous la monarchie, etc.
Alors, donc mécénat versus philanthropie.
Ce serait quoi le bon mot pour vous?
Écoutez, je pense qu'on va de plus en plus maintenant, on va certainement en reparler, vers la notion d'engagement. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une mutation qui est en cours, presque une révolution qui est en cours dans le monde de l'entreprise et qui est extrêmement positive, je pense, et sur laquelle on aura l'occasion de revenir.
Aux États-Unis, on parle essentiellement de philanthropy en général et ça inclut les particuliers, les entreprises et les fondations.
Corporate philanthropy ou individual philanthropy.
Exactement.
En sachant que la partie particulier, individu, est beaucoup plus importante que la partie entreprise. Pour des raisons, on va certainement y revenir tout à l'heure.
Et des dons. Alors sur les domaines,
il y a eu une évolution très importante des domaines servis par le mécénat. Quand Jacques Rigaud, homme de culture, on le disait, a créé Admical, j'ai envie de dire, un an après la création d'Admical, il a eu un coup de peau formidable. Mitterrand est arrivé au pouvoir, Jacques Lang est arrivé au ministère de la
Culture. C'est pas forcément ce qu'il souhaitait, mais c'est un autre débat.
Peut-être pas, mais en tout cas, il est certain que les grandes entreprises qui ont eu besoin de se faire une bonne réputation dans le monde socialiste, qui a priori ne les aimait pas beaucoup, se sont précipitées vers le mécénat, et notamment vers le mécénat culturel, parce que Jacques Lang faisait passer un vent de jeunesse formidable sur le monde de la culture, rénover tous les musées, créer des festivals, des journées de fêtes, etc. Et donc, toutes les entreprises, les grandes en particulier, tout le CAC 40, à une exception près, AXA, parce que le président d'AXA, Claude Bébéard, était probablement plus visionnaire que la moyenne et était déjà orienté de façon plus holistique vers la responsabilité sociale des entreprises. Tous les autres se sont précipités vers le mécénat culturel en se disant « Cocagne, ça va nous permettre de démontrer... » allez, disons à peu de frais, qu'on est capable de s'intéresser à autre chose que de gagner du fric et de faire des choses pour l'intérêt général. Ça a duré une vingtaine d'années, la dominante quasi exclusive du culturel sur le monde du mécénat, et ça n'est qu'à partir de la fin du siècle dernier, sous la pression médiatique et de certaines ONG, que ces entreprises mécènes qui cultivaient leur image avec leur mécénat ont été attaquées en greenwashing, reprenons cette appellation, et donc on refluait dans la façon dont ils utilisaient le mécénat. Alors ensuite, il y a eu un deuxième temps très important, ça a été la crise qui a démarré dans les banlieues en 2005, puis la grande crise économique de 2008-2010, qui a fait apparaître des fractures dans la société française et des drames au niveau de la société, qui apparaissaient comme des urgences, et qui ont fait que le culturel a reflué énormément. Il a reflué d'ailleurs pendant presque 8 ans, avant de pouvoir commencer à remonter un peu la pente. Aujourd'hui, donc, les domaines servis par le mécénat à notre dernier baromètre, c'est à hauteur de 28% le social, 25% le culturel, 23% 20% l'éducation. Bon, si on fait la somme de social et éducation, parce que malgré tout ça se rejoint, ça fait plus de la moitié. La somme des trois, on voit que c'est une part très importante. Juste après vient la santé avec 11%. Et l'environnement, qui pourtant occupe la une des journaux et à juste titre, ne fait que 7% pour des raisons qu'on pourra revenir.
Et puis il y a des oubliés aussi, des secteurs pas du tout qui n'intéressent pas les mécènes.
Alors les grands oubliés aujourd'hui sur les grandes problématiques de société, eh bien c'est la maladie mentale, la grande dépendance, le vieillissement et la grande dépendance. Ce sont les droits de l'homme.
C'est pas assez cool.
C'est les sujets qui sont considérés comme pas glamour ou qui font peur. Les droits de l'homme, ça fait peur. Les gens ont peur de faire des erreurs, etc.
C'est très international. Elle préfère sans doute rester en France.
Et les autres sujets, effectivement, sont considérés comme pas glamour.
Emmanuel Paquette, si on regarde les grands philanthropes, alors au niveau international, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui?
Alors effectivement, il y a un top 5 ou top 10 en fait, des plus grands investisseurs, des plus grands donateurs en fait américains. On retrouve en numéro 1 Michael Bloomberg justement, donc qui est candidat à la présidence américaine.
Qui rentre dans à Super Tuesday ce mardi dans les élections américaines.
Exactement, qui a donné 3,3 milliards de dollars en 2019. En numéro 2,
notamment sur l'environnement essentiellement et la lutte contre les armes à feu.
Il y a un peu de santé aussi en fait. Ouais. Il est sur ses multi sa fondation, la fondation Bloomberg.
Puis aussi sur lui, il finance sa campagne.
Ça, exactement. Après, on trouve Baron Hilton. Donc là, on voit un peu ce dont il s'agit. On est dans les hôtels. Donc 2,4 milliards de dollars. Et puis en troisième position, Eric Schmidt et sa femme, donc Wendy Schmidt, 1,3 milliard de dollars d'investissement. Donc là, on voit plutôt pareil, éducation, santé aussi. Et puis, on retrouve encore des gens de la tech en septième position, la fondation Bill et Melinda Gates, avec 589 millions de dollars. Et puis, en neuvième position, alors un Américain qui est aussi français, donc c'est Pamela et Pierre Omidyar, donc le cofondateur d'eBay, qui ont donné 470 millions de dollars en 2019, essentiellement, effectivement, pour l'éducation aussi.
Zoé Sfez, quatre profils de philanthropes dans la culture, si on veut sortir de la France et des États-Unis à la fois, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas aussi de grands philanthropes, qu'ils soient russes, chinois ou même saoudiens, qui jouent un rôle, alors pas forcément le même.
Non, pas forcément le même. Alors, clairement, moi je voulais essayer un petit peu de regarder quelle typologie on a vu évoluer. Donc, effectivement, il y a eu l'entrée ces 10-15 dernières années de profils qu'on connaissait moins, donc il y a eu les saoudiens. Les saoudiens avec notamment une fondation très active qui est la fondation MISC, qui a été créée en 2011 par Mohamed Ben Salman, donc le prince héritier saoudien, qui finance, donc c'est par cette fondation que le prince veut apporter son fameux projet 2030 pour moderniser le pays. Donc là, on est sur technologie, art, culture, social, entrepreneuriat. Une fondation qui est active, alors notamment qui va donner des sous à la France, qui va donner des sous notamment au musée. Le Met, qui a fini par refuser des dons de cette fondation après l'affaire Jachar Khashoggi et probablement l'assassinat de ce journaliste.
Il a été vraiment assassiné, probablement
après l'affaire Khashoggi. Le lien de cause à effet du Met était assez étrange. Donc ils ont dit on prendra plus de dons, mais ils n'ont pas rendu les dons qu'ils avaient déjà touchés de la part de cette fondation. Là, clairement, on est sur du soft power de manière tellement, on va dire, agressive que c'est presque du hard power, parce qu'évidemment, il y a l'idée d'un retour derrière. Dans la même idée, mais de manière un peu différente, on a des oligarques russes qui deviennent parfois mécènes, mais alors comme ça, en un claquement de doigts. On se rappellera notamment de cet oligarque russe qui s'était mis à acheter de l'art contemporain de manière complètement frénétique pour monter une exposition ex nihilo à Pompidou, le but étant en fait que Poutine puisse venir inaugurer cette exposition et en même temps inaugurer la fameuse collection Stouchkine au moment à la fondation Louis Vuitton, qui était à peu près au même moment, l'idée étant d'arriver comme un chevalier blanc pour Vladimir Poutine des arts et des lettres et de réussir à obtenir la levée des sanctions contre la Russie. Bon, ça n'a pas marché, mais on a quelques oligarques russes comme ça qui sont clairement, évidemment, du mécénat qui est très proche du pouvoir politique. Et après, on a d'autres types de mécènes. On a par exemple Jonathan Choi, cet homme d'affaires hongkongais, qui d'ailleurs est un mécène de l'orchestre de Radio France, je vous le dis, c'est important, qui lui, à partir en fait, donc c'est vraiment un homme qui a vu fleurir son entreprise qui est à Hong Kong et qui a commencé, d'une certaine manière, dit-il, à se rendre compte, alors qu'il n'était pas du tout proche des milieux culturels, dans plusieurs interviews, que le soutien à la Chine et le soutien à Hong Kong passe d'abord par l'éducation, mais aussi par la technologie, et qu'en fait, il fallait promouvoir la culture chinoise dans le monde. Donc, en fait, il a commencé par soutenir d'abord des institutions dans son pays, à Liaoning, à Nankin, à Canton, à Pékin. Alors, c'est intéressant parce que c'est difficile de voir ce que cette fondation continue de faire, alors qu'il y a vraiment une opposition entre Hong Kong et la Chine en ce moment. Et puis, finalement, lui, il a clairement commencé à investir aussi partout ailleurs et en France. Par exemple, il a acheté plusieurs œuvres pour les Beaux-Arts. Il a fait un don $1 million à l'école des Beaux-Arts en France. Donnant, puisqu'en échange, eh bien, il y a des professeurs qui sont venus en Chine pour donner des cours et qu'il a obtenu l'exposition en France dans des galeries d'artistes chinois que personne ne connaissait vraiment. Donc là, on est sur un profil à la fois individuel, parce que c'est quand même un homme qui a fondé sa fondation tout seul, mais il y a une visée, ça s'inscrit dans une volonté politique de la route de la soie culturelle. Et puis on a, et je termine juste avec ça, des espèces de chevaliers blancs. Thomas Kaplan, vous en avez certainement entendu parler, fondateur de la collection Leyden, c'est un Américain qui a commencé à racheter des toiles de maîtres donc de la ville de Leyden, donc Rembrandt, des amis de Rembrandt, des cousins de Rembrandt, à une époque où en fait ça coûtait pas si cher que ça parce que tout le monde était à fond sur l'art moderne, et qui a voulu donner un versus toutes les autres grandes collectionneurs de l'époque, notamment américains, n'a pas voulu donner son nom à sa fondation, il est resté anonyme pendant une vingtaine d'années. Le but, c'est de racheter des œuvres et de les prêter le plus possible à tous les musées, donc il n'est pas dans une contemplation solitaire de ses œuvres. Évidemment, le corollaire de ces questions-là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi des gens qui se désengagent de la culture, c'est le cas des Rockefeller, on le sait, il y a eu la vente de la collection légendaire des Rockefeller, David et Peggy, qui a atteint, c'était le record absolu, plus de quasiment 900 millions d'euros. Les descendants des Rockefeller qui est une famille donc de pétroliers, qui a investi dans l'art, qui est, Abby et Peggy sont à l'origine quasiment de la création du MoMA, ils avaient les plus grandes œuvres dans leur collection, et bien les enfants ne veulent plus faire de l'art. David à l'époque. Et David, sur son lit de mort, aurait dit à ses enfants, la question c'est plus l'art, la question c'est l'écologie, et donc l'intégralité des bénéfices de cette fameuse vente de 100 millions d'euros ont été réinvestis par ses descendants dans différentes associations caritatives avec, et c'est le but affiché en tout cas, un gros focus sur l'écologie.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
19h, passé d'une minute en direct sur France Culture. Ce soir, on parle de philanthropie, un peu de mécénat aussi, avec François Debiès, il est président de l'ADMICAL, l'Association pour le développement du mécénat industriel et commercial. Sarah Hugonin, elle est journaliste au quotidien de l'art. Emmanuel Paquet de l'Express et Zoé Sez de France Culture. Nous sommes maintenant avec Sean Buffington. Il est vice-président de la fondation LUS à New York. Auparavant, il était président de la Philadelphia School of the Arts, une grande école d'art à Philadelphie. Il a été également provost pour les arts à Harvard, c'est-à-dire une sorte de vice-président chargé des arts de cette université très importante située près de Boston dans le Massachusetts. Alors la fondation LUS, Emmanuel Paquet, c'est quoi ?
Alors c'est une fondation qui a été créée par Henri Luce, donc qui est mort en 1967, il est né en 1898, et ce Henri Luce a constitué un des plus gros empires médiatiques aux États-Unis avec des magazines. À l'époque, on pouvait gagner de l'argent avec les magazines. Il a créé donc Time Magazine, Life, Fortune ou Sports Illustrated, et qui a créé donc cette fondation qui est en partie dirigée dans des investissements en Asie, dans des domaines suivants, donc éducation, théologie, religion et art. Alors quand on regarde le rapport annuel de cette fondation, ils ont quand même 826 millions de dollars d'actifs nets en gestion. Donc c'est quand même une fondation qui est relativement grosse.
Alors on est loin. Ça c'est du capital, mais qu'ils ne distribuent pas. Ils distribuent juste une partie de ce capital.
En partie, voilà. Il en reste toujours une partie, mais une autre partie est investie.
5% au minimum, c'est la loi américaine.
Exactement. Alors, juste à titre de comparaison, une des plus grosses aujourd'hui, on en a un tout petit peu parlé, c'est la Silicon Valley Community. Aujourd'hui, c'est plus de 13 milliards et demi d'actifs. Mais derrière, il y a Mark Zuckerberg, notamment, qui a donné des actions Facebook. Reed Hastings, donc de Netflix, qui a donné 100 millions de dollars. Jack Dorsey, dont on a parlé un peu plus tôt, qui lui aussi a donné de l'argent. Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, aujourd'hui décédé, mais qui a lourdement investi dans cette fondation. Et plus récemment, Ian Koum, donc le créateur de WhatsApp, qui a mis une partie de son argent lors de sa vente, de la vente de WhatsApp à Facebook.
Alors nous avons rencontré Sean Buffington, vice-président donc de la Fondation Luce à New York, et nous l'avons interrogé d'abord tout simplement sur comment ça marchait, la philanthropie, sa fondation, et la question précisément de la dotation de capital, c'est-à-dire le budget de cette fondation, et les intérêts qu'ils doivent dépenser. Sean Buffington.
Well, our foundation, many foundations can trace back the current giving of the foundation to one or another of the interests of the founder.
Il y a pas mal de fondations qui sont alors les objectifs imposés par le fondateur, Monsieur Luce, lui, est le fils de missionnaires chrétiens en Asie, donc lui, il s'intéresse à l'éducation, la religion et à l'Asie. Ça, c'était ses grandes priorités, c'est des éléments importants de sa vie lorsqu'il était enfant, adolescent, puis adulte. Par conséquent, cela constitue les priorités de la Fondation. À l'heure actuelle, nous avons un certain nombre de programmes. Nous avons un programme en faveur de l'étude de l'Asie. Si nous avons un programme sur l'art, les hautes études, il y a sa femme qui a créé un programme en religion et en théologie. Donc, vous voyez une grande diversité de programmes, mais c'est en fait les grandes ambitions et les priorités des fondateurs.
Aujourd'hui, vous avez parmi les axes principaux deux thématiques plus nouvelles, d'une part les arts visuels et d'autre part les nouvelles générations d'American Indians.
Yes, that's right. We have a program that supports American art.
Oui, nous avons un programme muséologique sur l'art américain, avec des ramifications dans certaines universités. Ce programme existe depuis le début des années 80. Il a été lancé par le fils de Monsieur Luce, qui est devenu le directeur de la fondation dans les années 60. Et lui, il s'intéressait beaucoup aux arts visuels. Et donc, notre programme d'art américain constitue l'un des programmes les plus importants dans le domaine de l'art américain. Et il y a d'autres fondations qui travaillent dans ce domaine. Il y a notamment la fondation Andy Warhol. Plus récemment, nous avons créé une nouvelle initiative visant à soutenir le partage de connaissances et le maintien de la connaissance dans les communautés amérindiennes. Là, c'est un travail qui m'est cher.
Comment ça marche une fondation? Vous partez d'une dotation en capital qui est importante et vous devez utiliser, c'est même une obligation fiscale, je crois, un pourcentage de cette dotation pour vos actions.
Yes, that's right. For the kind of foundation
oui.
that we are, and most foundations,
plusieurs types de fondations. Et il y a pas mal de fondations privées qui fonctionnent de la même façon. Nous devons dépenser 5% selon la législation fiscale. Donc 5% de la valorisation des investissements moyennés au cours d'une année. Ainsi, nous notre fondation a une valorisation de l'ordre de 900 millions de dollars et donc nous dépensons entre 35 et 40 millions de dollars par an, ce dont la valorisation qui, elle, évidemment, fluctue selon le financement, les flux de financement.
Quels sont les secteurs, selon vous, que la philanthropie finance le plus aux États-Unis?
Parlons d'abord de philanthropie aux États-Unis, si vous voulez bien, pour contextualiser les choses. J'ai quelques chiffres à partager avec vous. En 2018, selon Giving USA, organisation qui suit le financement des philanthropies, au total, les dons philanthropiques en 2018 se sont montés à 427 milliards de dollars. Mais plus de la moitié émane de donateurs individuels. Les fondations, elles, n'ont donné que 75 milliards de dollars. Donc, c'est une faible proportion de la philanthropie aux États-Unis qui émane des fondations. Et puis, si l'on regarde les domaines financés, la plus grande partie du financement philanthropique aux États-Unis et vise la religion, 124 sur 427 milliards de dollars, donc plus d'un quart, vise la religion. Autrement dit, les gens financent leur paroisse, ou alors une école paroissiale, quelque chose comme ça. L'éducation, 58 milliards de dollars. Les services humains, ensuite les dons pour les hôpitaux, là on est à 40 milliards. Donc l'art et la culture et les humanités, autrement dit la recherche, l'éducation, les humanités, l'art, la musique, le théâtre et ainsi de suite, là on est à 19 milliards sur 427 milliards de dollars. Donc c'est une toute petite proportion.
Quel est le statut de ces fondations? Une fondation comme la vôtre, mais c'est le cas, je crois, de toutes les fondations. Comment elles sont définies fiscalement? On dit souvent que ce sont des fondations privées, mais en fait, ce mot n'est pas exact comparé, en tout cas, à ce que serait une entreprise commerciale.
Well, we're called a 501c3.
Est une 501c3. Voilà. Autrement dit. Selon la loi fiscale américaine, il y a différentes catégories.
C'est une sorte d'association loi 1901, pour le dire en français, c'est-à-dire d'association à but non lucratif.
Oui, la comparaison est pertinente, oui. Donc une fondation, c'est une association à but non lucratif, 501c donc. Mais il en va de même pour la plupart des musées. Ou alors des théâtres non commerciaux. Là, il s'agit d'entités à but non lucratif. Par conséquent, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de retour vers un quelconque investisseur, mais évidemment, il y a certaines contraintes réglementaires. S'agissant des fondations, il faut notamment payer 5% du capital tous les ans, on en a parlé. Et sinon, ce type de fondation à but non lucratif n'a pas le droit de s'engager politiquement. Sinon, il y a d'autres types de fondations qui, elles sont assujetties à d'autres réglementations. Donc, il y a des entités qui donnent de l'argent, mais qui ont le droit de mener des activités politiques. Donc là, c'est une réglementation fiscale différente. Et d'ailleurs, elle porte un numéro différent.
Et puis, il y a aussi des fondations plus familiales, des fondations d'entreprise, etc. On connaît souvent les très grandes. Je pense à la fondation Carnegie, la fondation Ford, la fondation Rockefeller, qui sont connues jusqu'en France. Mais en réalité, il y a beaucoup de fondations et elles sont souvent très locales avec des noms et des structures qu'on ne connaît pas.
Oh yes, of course. I mean,
oui, vous avez raison, oui.
This number is probably a little bit out of date, but in 2015,
en 2015, il y avait 86 000 fondations aux États-Unis. Le chiffre est un petit peu obsolète. Et il y a des fondations indépendantes, dont la fondation pour laquelle je travaille. La fondation Gates, elle donne 3,8 milliards de dollars, c'était le cas en 2015 du mois. Et nous donnons simplement 35 ou 40 millions de dollars par an. Donc, nous sommes tout petits par rapport à la fondation Gates, mais nous sommes parmi les 100 premières fondations aux États-Unis. Autrement dit, il y a des dizaines de milliers de fondations qui sont beaucoup plus petites que la fondation Luce, qui donne 1 million de dollars par an ou 100 ou 200 000 dollars par an.
La philanthropie américaine, c'est ce qui finance l'éducation, les écoles, les églises, les hôpitaux, les théâtres, les musées, etc. Pourquoi est-ce que des très riches entrepreneurs qui ont leur fondation, ou même des individus qui ont de l'argent à donner et qui sont des philanthropes de ce fait, pourquoi est-ce qu'ils donnent ?
Yes, I mean there are those kinds of things, I think.
Alors,
yes,
il y a certaines raisons fiscales.
Le fisc
encourage les dons, mais les raisons peuvent être tout autres. Pour certains, il faut satisfaire l'ego. Il y a des gens qui adorent voir leur nom sur un immeuble. Sinon, il y a des gens qui ont un goût pour la philanthropie. Il y a des gens qui croient vraiment en une certaine cause. Nous avons des amis à New York qui ont un peu d'argent, mais ils ne sont pas pour autant très très riches, mais ils adorent le théâtre. Ainsi, ils vont voir plein de pièces de théâtre et ils font des dons. Et donc, ils sont importants à titre individuel pour soutenir le théâtre. Donc, c'est par amour que l'on soutient certaines causes ou domaines. Alors, les hôpitaux sont largement financés par des fonds philanthropiques parce que les gens apprécient d'y être bien soignés. Sinon, les gens qui financent l'école ou la fac où ils sont allés. Donc, les motivations sont très diverses pour donner de l'argent, comme vous dites. Mais c'est vrai qu'il y a une grande différence interculturelle de ce point de vue-là entre les États-Unis et la France.
Est-ce que le protestantisme a joué, au moins à l'époque de Carnegie, de Rockefeller, un rôle ?
Well, I think that there is academic research that posits,
il y a des études universitaires
the Protestant ethic, if you will, qui as being part of what
disent
contributes
que l'éthique protestante contribue à la formation de l'esprit américain de façon générale. Et donc cela en fait partie.
But I do also think,
cela dit,
il m'apparaît
qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle, certaines personnes très très fortunées ont voulu forger la culture et la société américaine à leur image ou selon les canons de leur vision, de leur idéologie. Mais il faut se souvenir que ces fondations qui datent de la fin du 19e et début du 20e existent encore aujourd'hui. Par conséquent, Henry Ford se retournerait dans sa tombe s'il voyait ce que fait la Fondation Ford aujourd'hui. Donc, si vous êtes un philanthrope milliardaire, vous avez des attentes, évidemment, quand vous créez votre fondation, et vous avez une propre idéologie, mais 100 ans plus tard, bien après votre décès, cette fondation peut faire autre chose. Et la Fondation Ford, je crois, constitue un bon exemple de ce grand écart. Henry Ford était raciste, antisémite, et aujourd'hui, la Fondation Ford est menée par un dirigeant homosexuel dont la peau est de couleur noire et qui vise la résolution de certains problèmes de relations raciales aux États-Unis. Donc le pauvre Henry Ford, avec ses pensées racistes et antisémites, encore une fois, je pense qu'il se retournerait dans sa tombe.
Voilà Henry Ford de la fameuse Fondation Ford, fondateur de la Fondation Ford, habillé pour l'hiver, l'été, même peut-être le printemps. C'était Sean Buffington, vice-président de la Fondation Luce, interrogé et traduit d'ailleurs
par Xavier Combes.
Voilà. 19h16 sur France Culture. On parle philanthropie ce soir, mais aussi mécénat dans Soft Power avec François Debiès, président de l'Admical, Sarah Huguenin, journaliste au quotidien de l'Art, Emmanuel Paquet de l'Express, Joël Sfez de France Culture. Alors, il s'est passé quelque chose tout récemment. C'est une loi, la loi de finances, dans laquelle François Debiès, le mécénat est revenu, mais pas forcément comme vous l'espériez.
Alors, effectivement, il y a eu une remise en question de la loi Aillagon. On ne peut pas l'appeler autrement. Le résultat, après de nombreux mois de concertation avec les institutions représentatives du monde du mécénat et de la philanthropie, ont abouti à l'intention qu'avait affiché le gouvernement d'ailleurs dès les premières rencontres, c'est-à-dire de plafonner la capacité de mécénat défiscalisé des grandes entreprises. Donc vous avez en tête que la défiscalisation, le taux de défiscalisation pour les entreprises était de 60%. Ça a été ramené à 40% pour les entreprises qui donnent plus de 2 millions par an, hors dons Coluche, donc hors le don banque alimentaire, resto du cœur, logement de grande précarité, etc. Un impact certainement très important parce que les entreprises sont extrêmement attentives à cet aspect-là. Les grandes entreprises sont très attentives. Je vous rappelle qu'elles représentent encore 60% du montant global du mécénat d'entreprise. Alors, parallèlement, Le gouvernement a valorisé le fait qu'ils ont accordé une franchise pour les petites entreprises qui auparavant étaient limitées par le plafond de 0,5% du chiffre d'affaires. Et donc c'était une quasi-impossibilité pour les très petites entreprises de faire du mécénat. Admical s'est battu pendant 5 ans pour obtenir cette franchise qui a été fixée à 10 000 euros à fin 2018, portée à 20 000 euros à fin 2019. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que le potentiel de développement du mécénat, il est beaucoup en région et auprès des petites et moyennes entreprises. Nous, on y croit énormément. C'est pour ça qu'on a fait un tour de France du mécénat pour justement faire ce travail d'évangélisation. Mais il n'empêche que les petits ruisseaux mettent du temps à faire les grandes rivières et qu'en amputant de cette façon-là le mécénat des grandes entreprises, eh bien, on prend un risque à l'heure où il y a un besoin de ressources privées de plus en plus important.
Alors, Zoé Sfès et Emmanuel Paquette, il y a aussi des critiques qui émergent, critiques d'un point de vue, je dirais, presque morale, d'une part, et critiques d'un point de vue financier par la Cour des comptes. On commence par vous, Zoé.
Oui, avec morale et puis éthique. Là, ce qui est intéressant, c'est que sur cette fameuse réforme de la loi, il y avait aussi en arrière-fond les fameuses critiques adressées notamment, par exemple, à une famille comme la famille Arnoux, avec toutes les polémiques qu'il y a eu autour de la Fondation Louis Vuitton, c'est-à-dire, finalement, est-ce que c'est un véritable cadeau, ou est-ce que finalement...
Notamment l'architecture.
L'architecture, ouais. c'est comme c'est privé, il n'y a aucune limite, il n'y a aucun un contrôle sur combien ce bâtiment a coûté. Or, finalement, on ne nous l'offre pas tant que ça, puisque ce sont des impôts qu'on ne nous versera pas.
Donc le manque à gagner fiscal.
Est-ce qu'il vaut le coup de ce musée ? Donc ça, c'est plutôt une interrogation d'ordre éthique. Mais après, il y a des véritables questions éthiques et des critiques de plus en plus fortes. En France, depuis de nombreuses années, il y a notamment un collectif comme, par exemple, Libérons le Louvre, et qui fait des grandes performances quasiment tous les 6 mois pour critiquer le fait que Total fasse partie des mécènes les plus importants du Louvre, donc qui parle évidemment de greenwashing. Tout ça fait suite au fait que il y avait eu le même type de collectif qui dénonçait la même chose pour la présence de BP, le géant pétrolier en Angleterre, notamment, qui était un grand mécène de la Tate, et finalement ça a payé puisque la Tate a renoncé en 2016 au mécénat de BP. Et puis il y a cette énorme question de Sackler, donc la famille Sackler, qui est donc une famille
très
qui a fait sa fortune
dans le financement de l'art aux États-Unis,
crucial dans l'art aux États-Unis, et qui avait notamment quasiment payé intégralement tout le département du Louvre qui est lié aux questions de la Perse. C'est grâce à ce don, ils avaient même réussi à apposer leur nom sur une salle pendant une vingtaine d'années. Bon, ils avaient perdu le nom, et eux sont pointés du doigt dans l'énorme crise des opiacés que traversent les États-Unis aujourd'hui. Donc il y a cette vraie question, ce vrai enjeu de l'éthique dans l'art, et on a cette espèce de pendant avec la famille Rockefeller qui, après avoir quand même introduit le pétrole dans le monde entier, a d'abord commencé par dire on ne fait plus de pétrole, on fait que des énergies vertes, et en plus maintenant on ne fait plus de l'art, on fait de l'écologie.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors ce que pointait aussi le rapport de la Cour des comptes, c'est la notion trop large d'intérêt général. Qu'est-ce qu'un intérêt général et qu'est-ce qui justifie en fait une forme de défiscalisation ? Alors normalement, il y a un texte pour ça avec 3 points de ce qu'est l'intérêt général. Donc il faut que ça soit une gestion désintéressée dans ce quoi une entreprise investit ou un particulier. Il faut que cette activité soit non lucrative, bien évidemment. Et le troisième point, c'est qu'elle ne soit pas réservée à une minorité et donc à un nombre de personnes. Là, le texte n'est pas ce que veut dire restreint ou pas. Par exemple, l'accès aujourd'hui à la Fondation Louis Vuitton, il faut quand même un peu d'argent pour rentrer. C'est des prix qui sont équivalents à un musée privé. On en parlait tout à l'heure un peu avant l'émission. Donc la question est de savoir, quand c'est financé avec une aide publique, est-ce qu'on peut avoir quand même derrière des prix d'accès relativement égaux à ceux du privé ?
François de Biesse, une courte réaction.
Alors, je pense qu'effectivement, derrière tout ça, il y a une problématique d'éthique qui est fondamentale. Il ne peut pas y avoir de mécénat sans éthique. Et la base de l'éthique du mécénat, c'est le mot de désintéressement. C'est la différence entre mécénat et sponsoring. Le sponsoring est une opération, au parrainage, une opération commerciale avec des contreparties. En matière de mécénat, les contreparties doivent être extrêmement limitées. Et l'objectif doit être effectivement de servir l'intérêt général et pas les intérêts de l'entreprise. Donc ça, c'est absolument fondamental. J'insiste sur un point, c'est que la notion d'éthique, elle s'applique également aux bénéficiaires, et lorsqu'on est un collecteur de ressources pour financer ses activités, lorsqu'on est un musée ou lorsqu'on est un établissement de spectacle vivant, eh bien il faut qu'on soit attentif également à l'origine des fonds, avec qui on traite. On ne peut pas prendre n'importe qui. Et il y a eu, vous vous rappelez, il y a quelques années un petit scandale autour d'un mécène coréen qui était investi dans les grandes institutions culturelles françaises. Donc cet aspect-là, il est absolument fondamental. Et derrière tout ça, les querelles qui se sont développées récemment et toute l'école qui est parrainée par Rob Reich aux États-Unis, qui attaque la philanthropie sur le thème de l'influence. Là, on est véritablement sur le sujet. Quel est l'objectif recherché? Et si effectivement,
qu'est-ce que c'est l'intérêt général?
Voilà, si cet objectif est tordu par rapport à la notion d'intérêt général, eh bien, on est à côté de ce qui est souhaitable.
En termes de cette loi Ayagon, je dirais un peu rabotée dans la loi de finances 2020, l'économie porte sur combien? Combien l'État finalement va réussir à corriger?
Très peu de choses, 80 millions d'euros.
Donc c'est beaucoup de bruit pour rien, on pourrait
dire. C'est beaucoup de bruit pour pas grand chose, on peut pas dire rien. Je pense qu'effectivement, il était difficile de ne tenir aucun compte du rapport de
la Cour des comptes.
C'était indispensable. Mais le signal qui a été envoyé, qui donne le sentiment qu'il y a un mécénat pur, qui est celui des petites et moyennes entreprises, et un mécénat contestable, voire critiquable des grandes entreprises, ça je pense qu'aujourd'hui, c'est un mauvais signal, c'est dangereux, et c'est pas très réaliste à l'heure où on clame partout qu'on a besoin de plus de soutien privé, et de plus d'engagement du privé.
Emmanuel, oui, il faut rappeler qu'en plus, ce rapport et cette loi arrivent au moment où on a eu toute une réforme fiscale aussi sur la fiscalité privée avec le revenu à la source, avec le passage de l'ISF en IFI, qui a énormément fait chuter les dons aussi. Donc on a globalement une incertitude fiscale.
Alors on va revenir
fiscale.
Sur ce point-là, mais Emmanuel Paquette, vous n'étiez pas d'accord sur le beaucoup de bruit pour rien.
Non, c'est parce que je pense qu'il y a quand même deux aspects que le gouvernement ne pouvait pas négliger. C'était un, les gilets jaunes. Le côté, ça va encore être perçu comme un cadeau aux entreprises et notamment les grosses, donc il y a besoin peut-être de réguler ça, donc il y a un aspect politique et probablement un autre aspect qui est un aspect économique, c'est qu'il y a une baisse de l'impôt sur les sociétés qui va arriver, qui est relativement importante, et donc ça peut paraître pour le grand public comme un double cadeau, c'est-à-dire pouvoir défiscaliser les dons d'un côté pour les entreprises et de l'autre côté d'avoir un impôt société qui est en baisse.
Mais alors ça c'est parfaitement exact, je suis tout à fait d'accord. Pour moi il y a un problème majeur dans ce pays, c'est la définition d'intérêt général et un discours à construire autour de la société dont on veut.
Vous voulez dire que l'intérêt général n'est pas porté que par l'État, il peut l'être par les entreprises,
mais
c'est ça que vous entendez?
La seule définition de l'intérêt général en France, c'est dans le code de la fiscalité, c'est complètement surréaliste. On est aujourd'hui, la société française est dans un état de fracturation absolument monstrueux. Je crois que de la plus belle illustration qu'on peut en donner, c'est le titre du livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français, hein, des petites îles avec des communautés qui se connaissent pas, quand elles se détestent pas, qu'elles ne voient pas des pavés à la figure. On a besoin de créer du lien. Le mécénat, c'est un outil pour créer du lien entre les entreprises, les collectivités territoriales, le monde associatif. Il y a besoin de rapprocher le monde associatif et les entreprises. Et cette notion d'engagement qu'on évoquait au début, elle est aujourd'hui, c'est l'actualité la plus brûlante.
Expliquez-nous aussi ce que disait Sarah. Elle dit, avec la transformation de l'ISF, ça, c'est moins bien pour la philanthropie. Comment ça se passe, ça?
Alors, la transformation de l'ISF en IFI...
Qui devient essentiellement
sur le patrimoine. Incontestablement, ça a amené une économie pour les gens qui sont passés de l'ISF à l'IFI. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai envie de dire, il y a eu aucun contrôle. Il aurait peut-être fallu quand même vérifier que ce cadeau qui était fait, il était utilisé soit pour investir, soit pour donner plus. Il y a eu aucun contrôle. Eh bien, conclusion, la plupart des gens ont mis la différence dans leur poche. Donc,
alors qu'ils auraient pu donner à la philanthropie.
Alors qu'ils auraient pu donner. Voilà. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est un discours sur la notion d'intérêt général, sur la construction de la société. On a eu un grand débat qui était un débat de récrimination et c'était souhaitable dans le cadre des Gilets jaunes. On aurait besoin d'un grand débat de construction.
Mais pour bien comprendre, c'est parce qu'à partir du moment où l'ISF baisse, en particulier sur la partie de financement des entreprises qui ne sont plus pris en compte, du coup, évidemment, on fait moins de dons puisque ces dons étaient défiscalisés.
Oui, mais vous pouvez parfaitement le reporter sur votre IR.
Et il était défiscalisé à quel taux pour ceux qui payaient l'ISF?
C'était défiscalisé à 75%. C'était plus important.
Continuer à le payer.
C'était plus important. Et donc l'économie réalisée par ceux qui sont passés de l'un à l'autre était très importante. Ils auraient pu parfaitement reporter ça en défiscalisant sur leur IR.
Alors Sarah Hugonin, que vous connaissez bien le mécénat, vous le suivez, les questions de philanthropie. Qu'est-ce qu'on observe en termes d'évolution en ce moment, en termes de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait du mécénat par rapport au territoire, la démocratisation, l'intérêt général justement, etc.
Tout ce qu'on vient de dire là sur le rapport de la Cour des comptes, sur la réforme actuelle, on se rend compte finalement que le mécénat aujourd'hui est considéré que d'un point de vue fiscal, ce qui est à mon sens une erreur flagrante, puisque réduire le mécénat à une question fiscale est est complètement fallacieux. Le mécénat aujourd'hui, c'est d'un point de vue, on se rend compte que 97% des entreprises mécènes sont des PME qui agissent pour le territoire, pour l'attractivité du territoire. Je peux vous citer un seul exemple. À Lyon, le fonds de dotation des entreprises du Musée des Beaux-Arts de Lyon a agi pour en subventionnant les expositions du musée, en subventionnant les acquisitions, où ils ont conscience qu'en tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise, faire un territoire qui est attractif par la culture est aussi attractif de fait pour les entreprises. On a aussi un mécénat qui est effectivement, comme on le disait, de moins en moins culturel, mais aussi parce que c'est ce qu'on appelle le mécénat croisé, qui va aussi croiser les problématiques sociales. Je peux citer Emmerich, par exemple, à Versailles, qui va faire venir les enfants de quartiers défavorisés pour venir à Versailles. On a aussi le mécénat qui est un outil de communication, de démocratisation. Globalement,
on et aussi un dialogue, finalement, un facilitateur de dialogue.
Un facilitateur, tout à fait.
Entre le privé et le public.
Un créateur de liens.
Un créateur de liens, également pour l'entreprise, en cohésion en interne, pour les salariés. Et donc, les vraies questions qui auraient dû être posées là, sur la question de l'intérêt général, on l'a posée. Je rappelle aussi que le mécénat est quand même un approfondissement pour l'entreprise, n'ont pas été posées, et je trouve qu'on a raté le débat du mécénat.
Eh bien, j'espère qu'on ne l'a pas raté ce soir. C'était assez rapide, mais on a traité beaucoup de questions. Il y a tout un aspect diversité aussi, engagement dans les questions de genre, etc. Vous pouvez écouter la deuxième partie de l'entretien avec Sean Buffington sur la page de l'émission Soft Power. On le met en lien. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Pour aller plus loin, les références, articles, livres, ainsi que les musiques diffusées sont à retrouver sur le site de France Culture, émission Soft Power. La semaine prochaine, on parlera dans cette émission des questions liées au Civic Tech, les startups ou applications pour encourager la démocratie. Dans un instant, retrouvez Carbone 14 et j'ai encore le temps de vous signaler que toute la semaine, Arthur Rimbaud sera à l'honneur de la Compagnie des œuvres sur France Culture. C'est de 15h à 16h tous les jours. Rimbaud donc, notamment avec un entretien avec André Guyot qui a fait la Pléiade Rimbaud. Merci François Debiès d'avoir été notre invité ce soir. Sarah, Emmanuel et Zoé, en attendant les émissions à venir et bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et à tous bonne fin de week-end.
France Culture, l'esprit d'ouverture.